RCF.
Et à 18h10 sur RCF, nous retrouvons le 18-19 en région, Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce mercredi avec l'équipe habituelle. D'abord Jean-Pierre Benoît qui est à nos côtés, bonsoir Jean-Pierre.
Bien sûr, équipe habituelle, bonsoir Alexis.
Robert Reverger est là pour un mot, une expression. Robert Reverger, bonsoir et meilleurs vœux pour 2024.
Bonsoir, réciproquement.
Quel sera le mot abordé aujourd'hui ?
Immigration.
Immigration, c'est dans l'actualité, comme toujours, Robert Reverger, vous êtes connecté. Fernand Tavares aussi est à nos côtés, lui toujours très à l'affût de l'actualité. Fernand, bonsoir.
Bonsoir, on parlera du changement de gouvernement, du changement de Premier ministre, ça s'est fait depuis 24 heures, mais les choses vont très très vite. Et puis quelque part, on fera une allusion à l'immigration aussi.
Et est-ce qu'on tirera un petit peu des plans sur la comète avec pourquoi pas des figures locales qui pourraient peut-être avoir des postes, Fernand ?
On pourra tirer des plans sur la comète en disant que tel ou tel a un certain profil, tel ou tel est en attente et qu'il pourrait s'insérer comme par exemple le maire de Reims.
Ça c'est du teasing, en tout cas on ne vous a pas présenté nos voeux. Fernand, on vous souhaite une très bonne année et une bonne santé pour 2024.
Merci, à vous de même.
Juste avant de retrouver Robert Reverger, d'un mot Fernand, puisqu'on aura l'occasion de vous retrouver surtout après le journal de 18h30, pendant une quinzaine de minutes, je crois. Le choix du Premier ministre, le choix de Gabriel Attal, comment vous l'expliquez ?
Moi, je reviens quelques années en arrière, aux premières heures du candidat Emmanuel Macron en 2017, où il était entouré d'une équipe de jeunes dont faisait partie Gabriel Attal. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le président de la République retourne à ses sources premières ou à ses premières sources et qu'il veut revenir vraiment à ses fondamentaux, à une équipe qui lui soit fidèle et dévouée à 100%. Emmanuel Attal est l'homme de la situation. D'abord dans l'opinion publique, il a une très forte notoriété. C'est lui qui a la plus forte notoriété. Ça ne durera peut-être pas parce que quand on est au pouvoir,
vous
ça dégringole.
Avec Robert, on a un petit peu souri. Vous avez redit Emmanuel Attal et j'attends que vous dites Gabriel Macron bientôt.
Oui, mais bon, c'est pas tout à fait innocent. Vous verrez pourquoi
tout
à l'heure.
On a bien compris.
Alors, depuis 48 heures, qu'est-ce qui se passe entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal ? Je dirais pas l'ange Gabriel, même si on est à RCF. Eh bien, le nouveau Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait en 24 heures ? Auprès de Macron, il a d'abord petit déjeuner. Ensuite, il a déjeuné. Ensuite, il a dîné. Bref, rarement, on a vu, lorsqu'un Premier ministre était nommé, qu'il passe autant de temps ensemble. Ça n'est pas
Est-ce
rien.
Ça veut dire que vraiment. Vu des premiers ministres et des présidents ?
J'en ai vu. Mais en tout cas, là, il y a une osmose parfaite entre le président et son nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, il fallait qu'il aille sur le terrain très vite. Ça a été fait hier dans le
Pas-de-Calais.
Et aujourd'hui, dans les commissariats de police, avec qui ? Le ministre de l'Intérieur, je ne dis pas autoproclamé, mais presque.
Gérard Darmanin. On aura l'occasion donc de revoir tout cela.
Avant que vous attaquiez avec Robert, Jean-Pierre, on donne le reste du programme du soir quand même.
Ah oui, bien sûr, oui, très rapidement.
Avec un maire qui vous parle, Alain Masso, qui est maire de Doumeli-Beni, c'est dans les Ardennes, on ira faire un tour dans les communes.
À côté de Chaumont-Porcien.
Tout à fait, on ira dans le Porcien. Et puis en toute fin d'émission, on retrouvera Aubin Janteur, parce que l'actualité de la journée, c'est aussi les soldes d'hiver qui ont été lancés, Jean-Pierre.
Absolument.
Et c'est vrai que la météo joue pour beaucoup dans les stocks. Aubin Janteur, qui est directeur des magasins Janteur, nous expliquera tout cela. On le retrouvera aux alentours de 18h50, un petit peu passé.
Et tout de suite, sans plus attendre le mercredi, on retrouve Robert Reverger qui est avec nous. Robert, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre.
Alors, c'est vrai que vous choisissez un mot. Et en un mot, aujourd'hui, en pleine actualité, Fernand Tavares, il revient régulièrement. C'est le mot, bien sûr, immigration, notre mot d'aujourd'hui.
Oui, mais je tiens à préciser tout de suite que je ne vais absolument pas piétiner les plates-bandes de Fernand Tavares. Alors, c'est un mot effectivement d'une brûlante actualité depuis quelques mois. Un mot qui a entraîné bien des polémiques, un mot qui a fait couler beaucoup d'encre et, à mon avis, qui risque d'en faire couler encore pas mal, donc le mot immigration.
Alors, quelle est l'origine d'ailleurs de ce mot ?
Eh bien, ce mot est apparu à la fin du XVIIIe siècle, en même temps que le mot émigration. Ces mots sont formés du mot latin migrare, qui signifiait changer de lieu, changer de résidence, mais le mot migration tout court était apparu, lui, dès la fin du XVIe siècle.
Quand on parle de migration et d'émigration, à l'époque, hein, et à l'époque bien sûr, oui. À quoi s'appliquait ce mot ?
Eh bien, il se disait alors des Français qui émigraient pour aller s'installer aux Antilles ou en Louisiane. Alors, deux siècles plus tard, il s'appliquera aux déplacements forcés d'Africains vers ces régions comme esclaves et comme main-d'œuvre, mais il s'appliquait aussi aux aristocrates qui quittaient la France en période révolutionnaire.
Alors, cela dit, il faut dire que dans l'histoire, depuis des dizaines et des centaines d'années, les humains migraient. Depuis bien, bien longtemps.
Oh oui, un petit rappel peut-être en passant, le phénomène migratoire touche depuis toujours tout ce qui existe sur Terre, voire même dans l'espace. Par exemple, les animaux migrent, les plantes migrent, et nous constations quelquefois sur nos pare-brises que, par exemple, les sables du Sahara migrent.
Alors, pour ce qui est des humains, de quand date leur première vague migratoire ?
Eh bien, les premiers hommes du genre Homo habilis quittent l'Afrique il y a environ 3 millions d'années. Alors, ces migrations dureront de manière continue pendant des centaines de milliers d'années.
Ont-ils migré loin de leur continent d'origine ?
Eh bien, on a retrouvé des humains apparentés à Homo erectus, donc un peu plus tard, qui vivaient voilà 2 millions d'années. On en a retrouvé en Géorgie, en Indonésie et même en Espagne.
Et nous en arrivons à notre ancêtre beaucoup plus proche de nous. Le fameux Homo sapiens.
Ben oui, pour ce qui est d'Homo sapiens, lui aussi originaire d'Afrique d'ailleurs, il a migré entre 150 000 et 100 000 ans en arrière pour atteindre l'Europe autour de moins 40 000 ans et atteindre l'Amérique autour de moins 20 000 ans.
Alors pour quelles raisons ces premiers hommes ont-ils migré ?
Eh bien, ceux que l'on peut qualifier de migrants de l'époque n'avaient pas conscience d'habiter un continent et d'en sortir, bien
ce
entendu.
Ce qui d'ailleurs les différencie, il faut dire, Robert Auverger, des migrants d'aujourd'hui.
Oui, ces chasseurs-cueilleurs de la préhistoire se déplaçaient au gré des variations climatiques en suivant des troupeaux de gibier qui étaient nécessaires à leur alimentation avec en même temps la cueillette des fruits et légumes. Donc ces chasseurs-cueilleurs vont ainsi s'éloigner progressivement de leur contrée africaine d'origine et conquérir le monde.
Avaient-ils d'autres motifs de migrer en dehors de cette nécessité vitale qu'était leur alimentation ?
Oui, et qui est celle, je crois qu'il est nécessaire de le rappeler, de la quasi-totalité des migrants aujourd'hui d'ailleurs.
Alors ces premiers hommes dans l'histoire, puisque nous revenons en arrière avec vous, avaient-ils d'autres raisons de se déplacer, peut-être moins impérieuses que la nécessité de trouver à se nourrir ?
Eh bien oui, déjà à l'époque, la curiosité, une qualité particulièrement humaine, mais aussi un peu animale, bien sûr, les poussait à dépasser sans cesse leurs horizons.
Ce qui est toujours notre cas d'ailleurs aujourd'hui, on peut
oui,
le dire.
Oui, bien sûr, ce sont des... Mais aujourd'hui, ce sont les migrants temporaires que l'on n'appelle pas migrants, mais touristes qui, à leur départ, émigrent pour leur plaisir, mais à leur retour, n'immigrent pas.
Alors, pour en revenir à l'actualité, au monde d'aujourd'hui, que peut-on dire des phénomènes d'émigration et donc, par conséquent, d'immigration aujourd'hui ?
Eh bien, on peut citer un chiffre. En 2023, l'Europe a connu un important rebond migratoire de 67%. Par rapport à 2022, ce qui pose évidemment toujours plus de problèmes. Mais la réaction est la même dans la plupart des pays du monde, des pays dits riches, qui veulent traquer l'immigration clandestine et choisir leurs immigrés en fonction de leurs besoins économiques, un peu comme si ces pays avaient honte de ce tri. Ils enlèvent les préfixes et préfèrent parler aujourd'hui de flux migratoires.
Alors, ce qui veut dire, puisque dans cette émission on parle des mots, que effectivement les mots sont révélateurs aussi.
Oui, ils sont révélateurs, ils peuvent même être cruels, mais il faut bien reconnaître qu'il est très difficile de rendre compatibles des intérêts qui s'affrontent. D'un côté, ceux des habitants des pays d'émigration, et de l'autre côté, on pourrait presque dire en face, ceux des habitants des pays d'immigration qui sont dits pays d'accueil. Mais alors, évidemment, une question cruciale se pose. Qu'est-ce que cet accueil ?
Alors, en conclusion, Robert, pour cette émission aujourd'hui ?
Eh bien, en conclusion, je reprendrai la question que pose le journal Libération d'hier. Que faire pour que les immigrés indispensables à notre économie ne soient plus indésirables aux yeux de 72% des Français ? Autrement dit, comment faire rimer politique et philanthropie ? J'avoue ne pas avoir les compétences pour répondre à cette double question, mais peut-être Fernand Tavares y répondra-t-il.
Oui, parce que ce débat et tout ce que vous venez de dire, ça va rebondir certainement à partir du 25 janvier ou peut-être même ce jour-là, lorsque le Conseil constitutionnel dira si oui ou non tous les articles qui ont été votés par une majorité à l'Assemblée nationale sont constitutionnels ou pas, ou si certains ne seront pas purement et simplement censurés, ce qui provoquera évidemment encore un autre débat.
Et pour terminer, Robert, le mot de la semaine prochaine, qui suit aussi, Fernand, est dans l'actualité.
On parlera de vaccins.
On parlera de vaccins, donc de santé. Ça aussi, ce sont des sujets qui vont revenir en force dans l'actualité et qui préoccupent beaucoup les Français, c'est-à-dire l'hôpital, c'est-à-dire les malades, etc. Ça, c'est
absolument
quelque chose qui va revenir en boomerang. Merci Robert, bonne semaine, à bientôt.
Bonne
à
semaine
prochaine.
À vous aussi, au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À 18h21, Jean-Pierre, on reste avec vous. On part dans le Portien avec Alain Masseau, qui est maire de Doumely-Béni. Et donc, il nous parle ce soir. Et c'est vous, Jean-Pierre, qui fait l'intermédiaire.
Alain Masseau, bonjour.
Bonjour, Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Il paraît que dans le village, à côté, donc de pas très loin de Signy-l'Abbaye, tout le monde vous appelle Alain. Hein.
Oui, tout à fait.
Alors, je vais me permettre de vous appeler Alain Masseau. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre commune Doumely-Béni? Bon, il y a des auditeurs de Reims et de la région qui ne savent pas exactement situer où ça se trouve dans le département des Ardennes.
Non, je me doute bien. Donc, Doumely-Béni, c'est une petite commune du Portien, secteur Chaumont-Portien, donc dans les Ardennes, donc situé 20 km au nord de Rethel, si je puis dire, à l'ouest du département. C'est une commune de 90 habitants, donc un tout petit village, très très rural. Dans notre commune, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de commerce non plus.
Mais alors, quand c'est comme ça, il y a bien à côté, à quelques kilomètres, quel est le bourg, le village dans lequel vous allez le plus facilement quand on habite Doumely-Béni?
Notre village repère, ou qui était l'ancien chef-lieu de canton, c'est Chaumont-Portien, là où il y a entre autres notamment le pôle scolaire, plus un certain nombre de commerces et pour les premières nécessités, si je puis dire.
Sinon, vous allez peut-être à Rethel, vous allez même...
Et voilà, donc Rethel à un petit quart d'heure, et puis hier ou Reims, pour plus.
Alors, Alain Masseau, les habitants, on imagine 90 habitants, vous les connaissez tous, évidemment, mais ils sont tous plus ou moins agriculteurs. Quel est le profil un petit peu des habitants? Est-ce qu'il y a des habitants qui arrivent? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent s'installer dans votre village?
Oui. Il y a eu un bon nombre d'arrivants depuis quelques années, notamment suite au Covid. Hein, on a vu des maisons qui se libéraient, qui étaient vite reprises par des personnes ou des couples ou des familles qui souhaitaient sortir de la ville, quoi. Voilà. Donc, qui n'ont pas forcément d'attache ou d'ancrage du tout dans la commune, mais qui, voilà, qui
ils sont contents de venir. Ils veulent prendre l'air, la campagne, etc. Alors, vous êtes maire depuis combien de temps, Alain Masseau? Vous avez toujours été au conseil municipal? Vous avez été adjoint? Comment ça s'est passé pour vous?
J'ai 57 ans, j'ai dû rentrer au conseil municipal comme en tant que conseiller à la suite de... Enfin, mon père était au conseil municipal, évidemment, dans les petites communes, beaucoup de personnes sont représentées, ou beaucoup de familles, à l'âge de 25 ans, à peu près, et j'ai fait un mandat en tant qu'adjoint, et puis, donc, le maire en place en 2014 n'a pas souhaité continuer sa fonction. Je n'étais pas en attente de cela, mais le vide, si je puis dire, a fait que...
Vous êtes parti, vous êtes lancé.
Voilà, de toute façon, la notion d'engagement pour moi, c'est...
Très important.
Moi, voilà, donc ça... Voilà, je me suis engagé.
Alors, il est vrai, Alain Masseau, que le maire, il est souvent sollicité, il est sur la brèche. Il y a beaucoup d'ailleurs de gens qui refusent, hein, qui oui. Aujourd'hui disent c'est lourd. C'est quand même plus lourd qu'on ne le pense, la responsabilité. Il y a de la paperasserie, il y a quand même des sujets de préoccupation.
Tout à fait. la responsabilité est grande. La secrétaire de mairie gère bien sûr une grande, grande partie de la partie administrative. C'est de toute façon sa fonction. Au-delà de ça, ben, pour le maire, il reste, pour moi, ce qui peut être le plus lourd ou le plus pesant, c'est de gérer les personnes, si je puis dire, ou les conflits ou des choses comme ça. Parce que, ben, voilà, en petite commune, on va...
On fait appel au maire, on demande au maire.
On fait appel au maire, on n'attend pas après une permanence ou quoi que ce soit. On sait le trouver, on sait l'appeler, on vient chez lui.
C'est vrai aussi, le grand changement depuis quelques années, ce sont les fameuses communautés de communes. Mais cependant, le maire reste le maire. Il, entre guillemets, il est, comme je dis toujours, il est quand même un peu le patron chez lui. Même si les communautés de communes, tout ça joue un rôle important aussi.
Tout à fait, tout à fait. Dans notre cas, la communauté de communes est précieuse et tout à fait une grande importance. Et nous sommes dans une zone très rurale aussi, parce que c'est un ensemble quasiment d'une centaine de communes rurales, où la plus grosse commune a seulement moins de 1000 habitants de toute façon. Donc les responsables sont aussi des ruraux. Donc je pense que personne n'est oublié ou n'est très différent dans la com-com. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des projets en cours dans votre commune? Est-ce que vous avez deux, trois sujets qui sont actuellement sur votre bureau là, qui avancent ou qui sont en train d'avancer?
Bien sûr, il y a toujours des projets, mais faut-il les mettre en place ou les... De toute façon, des si petites communes qui n'ont aucune entreprise ni quoi que ce soit, donc on a un budget très très limité, donc forcément, comme dans un foyer, quand il n'y a pas beaucoup de revenus, on ne peut pas avoir beaucoup de projets, mais les projets qu'on doit avoir, ce sont les choses courantes, si je puis dire, la voirie, l'entretien des bâtiments, ou l'aménagement des bâtiments communaux, pour rendre la vie plus agréable dans la commune, mais au-delà de ça, on ne peut pas avoir de projets très très ambitieux.
Vous avez aussi souvent, certainement, à gérer la vie professionnelle, la vie familiale, parce que le maire, il est quand même pris. Comment vous arrivez à faire les deux, enfin à gérer, parce que c'est vrai que vous pouvez être dérangé à tout moment, il y a des fois.
C'est vrai, donc... bien sûr, la vie familiale, elle peut en prendre encore un petit coup, si je puis dire, puisque quand on est un petit peu sur tous les fronts...
Des réunions, des choses comme ça. Hein.
Des réunions en journée, des réunions en soirée, des représentations, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça déteint sur la vie de famille ou la vie privée. Mais voilà, il est important que... il faut avoir quand même une vocation pour accepter tout ça.
En tout cas, on n'a pas le temps de tout faire. On vous retrouvera, hein, parce que on aura l'occasion de revenir. Pour terminer, quand même, monsieur le maire, est-ce que vous êtes au fond un maire heureux? Vous êtes quand même un maire heureux, vous êtes passionné quand même, ça vous intéresse d'être maire, ça vous,
oui,
ça vous motive.
Ça me passionne, c'est vrai. Bien sûr, si dire que j'ai un grand épanouissement, ce n'est pas exact, mais je ne resterai pas en place si j'en souffrais ou si j'étais mal.
C'était difficile. Genre. En tout cas, merci Alain Massot, maire de Doumeli-Beigny dans les Ardennes, d'avoir été avec nous aujourd'hui, et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Aussi. Pierre.
Au revoir.
Au revoir, Jean-Pierre.
Eh bien, merci, Jean-Pierre. Comme tous les soirs, vous nous emmenez à travers le territoire. Vraiment, c'est ça, certainement, que nos auditeurs aiment, aller à la rencontre de ce qui se passe près de chez eux. On est au plus près de la vraie vie, j'allais dire.
Absolument. Et comme le disait tout à l'heure Fernand Tavares, et il le redira tout à l'heure, parmi les priorités un peu partout aujourd'hui, aller sur le terrain, rencontrer les problèmes des Françaises et des Français. Il est pratiquement 18h30. C'est l'heure du journal régional. Et on retrouve tout de suite Alexis Claudrez, puis ensuite Fernand Tavares, qui sera notre invité du soir.
Les Les titres de ce mercredi 10 janvier 2024, coup d'envoi des soldes d'hiver. Ce mercredi, c'est parti pour 4 semaines de bonnes affaires, pendant lesquelles les commerçants ne sont pas inquiets de trouver des clients qui devraient répondre favorablement. Le collectif Agriculture Cœur de nos territoires organise le 13 février à Châlons-en-Champagne les étoiles de l'agriculture et de la viticulture, un événement qui mettra en lumière des actions innovantes initiées par des acteurs agricoles et viticoles du territoire découvert.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Jean-Pierre, vous étiez ce matin en direct sur l'antenne. La neige et le verglas ont pourtant fait des leurres cette nuit et ce matin. Vous n'avez pas été trop impacté, en tout cas sur Reims.
En tout cas sur Reims, pas de problème. Les routes étaient relativement sèches et même, j'ai noté que les pare-brises, on n'avait même pas à les gratter du côté de Reims en tout cas.
Malgré tout, si on regarde une illustration dans la Marne, 22 secteurs ont été touchés tôt par ces intempéries. Les agents du département sont immédiatement entrés en action pour maintenir la fluidité du trafic et assurer la sécurité des automobilistes. En milieu de matinée, la quasi-totalité du réseau routier départemental connaissait des conditions de circulation normales depuis le 15 novembre 2023 et jusqu'au 15 mars 2024. Il faut savoir que le département de la Marne active son plan d'intervention de la viabilité hivernale avec pour objectif assurer la sécurité des automobilistes et la fluidité du trafic sur les routes départementales pendant la saison froide. Plus de 240 agents, 66 engins et 93 tracteurs d'agriculteurs se tiennent en alerte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour intervenir en cas de forte intempérie, neige, verglas. À savoir qu'avant chaque début de saison, le département de la Marne constitue un stock de sel d'environ 8000 tonnes réparties sur 23 sites d'exploitation. Ce mercredi a été donné le coup d'envoi des soldes d'hiver, un moment toujours attendu par les commerçants, mais aussi par les clients, de plus en plus touchés par l'inflation. Ils ne se lassent pas des offres à répétition depuis novembre. Black Friday, remise de Noël, vente privée, et donc maintenant, les soldes. Aubin Janteur, vice-président de la CCI Marne-Ardenne et directeur des magasins est optimiste quant à la fréquentation des magasins pour ce premier moment clé de l'année 2024.
La réponse pour moi n'est pas linéaire, puisque j'observe des variations de fréquentation assez différentes selon nos magasins, nos comportements. Sans surprise, à Charleville, où on est implanté en centre-ville, la météo très défavorable du mois de décembre a été plutôt pénalisante, alors qu'à Châlons, où on est implanté en zone, la météo en elle-même est relativement peu impactante. Donc là, la fréquentation, je l'imagine plutôt bonne. Et là, de tout son du bois, dans les 10 jours qui viennent, qui sont 10 jours absolument essentiels pour nous, en termes d'activité, aussi en termes de trésorerie, parce que l'objectif des soldes, c'est à un moment donné, c'est plus de vendre en faisant de la marge. On a besoin de la marge pour payer nos charges, l'électricité, etc. Mais la difficulté pour les commerçants, c'est quand on ne vend pas, en fait, l'argent est bloqué dans les stocks. Donc les soldes ont vraiment pour vocation aussi à donner un petit peu d'air en termes de trésorerie à nos entreprises qui en ont besoin, parce que cette trésorerie-là, elle va permettre de racheter les stocks de la saison printemps-été.
Et pour séduire la clientèle, Aubin Janteur le certifie, pendant cette période, on fait de réelles bonnes affaires.
Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un produit très demandé, sur lequel on a nous-mêmes des difficultés d'approvisionnement, évidemment, il aura moins de remises qu'un produit qu'on a eu des difficultés à vendre. Et ça, je pense que chacun le comprendra. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le dernier produit à la mode soit le produit le plus remisé. En revanche, il y a des produits qui sont fortement remisés et qui tous, en fait, sont des bons produits en tant que tels, mais pour des raisons X ou Y, ils ont plus ou moins plu. L'idée des soldes, elle est quand même bien là. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'écouler les stocks pour éviter d'en avoir trop après, trop bien vendu.
Aubin Janteur au micro de RCF Reims-Ardenne que l'on retrouvera plus complètement dans quelques minutes. Les soldes d'hiver sont programmés jusqu'au mardi 6 février. Retour dans la Marne, Georges-Philippe Chartier, Jean-Pierre. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom ?
A priori non.
À 54 ans, il est le nouveau directeur de cabinet du président du département Jean-Marc Rose dans la Marne. Originaire de Bordeaux, il est arrivé lundi et occupait dernièrement le même poste auprès du président de la communauté urbaine de Limoges Métropole. Au cours de sa carrière, il est notamment passé par le cabinet du ministre de l'Intérieur en 2011 et celui du maire de Bordeaux, Alain Juppé, entre 1996 et 2000. Georges-Philippe Chartier a également connu 2 expériences dans le secteur privé. Côté familial, il est père de 3 filles et marié à Maïder Arestogui, maire de Biarritz. Voilà Jean-Pierre, c'est une découverte, c'est un portrait.
Eh bien c'est une découverte, on aura l'occasion d'ailleurs sans doute d'interroger dans les jours prochains Jean-Marc Rose, président du conseil départemental de la Marne.
Le mardi 13 février 2024 marquera une date historique pour le monde agricole et viticole de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes avec la première édition des Étoiles de l'agriculture et de la viticulture. Pour l'élu référent du collectif Agriculture Cœur de nos territoires, Didier Blanquert, cet événement est une démarche nouvelle et innovante pour le territoire.
C'est une marque qu'on a voulu créer il y a 2 ans qui s'appelle Agriculture Cœur de nos territoires. Elle est mise en place par les différentes filières et organisations agricoles du département de la Marne. Alors faut savoir que c'est un événement qui existe déjà par ailleurs dans d'autres départements, notamment dans le département de l'Aube. On avait eu l'occasion d'y assister l'année dernière. L'Est Éclair nous avait conviés à une cérémonie de ce type-là à Troyes au mois de février ou au mois de mars 2023. Et on s'est dit que ça serait une jolie démarche aussi pour notre département.
Le collectif Agriculture Cœur de nos territoires est actuellement en phase de candidature. Didier Blanquert.
On a fait un appel à candidature sur un certain nombre de catégories afin d'identifier les gens qui pourraient devenir lauréats de cette cérémonie.
Toute exploitation agricole, viticole, filière ou structure dont le siège est dans la Marne, l'Aisne ou les Ardennes peut déposer sa candidature dans les différentes catégories correspondant à son activité.
On a encore une quinzaine de jours pour recevoir les candidatures. Ensuite, il y a un jury qui va se réunir pour définir quels seront les lauréats et la remise de prix se fera le 13 février.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. La première édition des Étoiles de l'agriculture et de la viticulture, c'est donc à la Comète de Châlons en Champagne. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22 janvier via le site étoiles-agriculture-viticulture.fr. Et puis un mot de sport, le 16e de finale de Coupe de France de football qui verra le Stade de Reims se déplacer à Sochaux aura lieu dimanche 21 janvier à 17h30. Vous pouvez prendre date. 18h37, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue. Dans quelques instants, Fernand Tavares, journaliste parlementaire, décrypte l'actualité politique au niveau national.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
18h37 dans ce magazine régional, en direct avec Fernand Tavares, comme vient de le rappeler Alexis Claudres, évidemment journaliste parlementaire, mais moi j'ai toujours plaisir à rappeler, parce que il y a des auditeurs qui nous redécouvrent et qui nous prennent en route dans leur voiture, que vous avez été aussi responsable à France 3 de l'information à un moment donné sur le plan national, sans oublier toutes les stations régionales, et je me plais toujours à rappeler, une photo d'ailleurs a circulé dans ce studio il y a quelques minutes, tout à l'heure, en vous montrant le jeune Fernand présentant à l'ORTF son premier journal télévisé. C'était en février 1965.
À Reims-Auvillé.
À Reims-Auvillé. Et ça, c'est la vraie histoire de la télé et de la radio.
Tout à fait.
Alors, justement, vous suivez l'actualité politique depuis des années. Vous connaissez par cœur l'Assemblée nationale, le Sénat, les parlementaires. Alors, on a dit tout à l'heure, mais on va le rappeler pour nos auditeurs qui viennent en route. Bon, c'était une demi-surprise parce qu'on l'annonçait. Mais quand même, on a l'impression que en 48 heures, en 72 heures, le nom de Gabriel Attal est maintenant connu et que c'est un personnage qui est en quelque sorte un peu mis sur orbite. Comment vous voyez cette situation-là ?
Moi, j'ai observé l'arrivée d'Emmanuel Macron avant 2017 et j'ai observé aussi tous ceux qui sont agglomérés autour de lui, qu'ils viennent de la gauche, du centre ou de la droite, parce qu'à cette époque-là, Emmanuel Macron apparaissait comme aujourd'hui Gabriel Attal, comme un jeune plein d'ambition, plein d'avenir, qui avait des idées et qui en quelque sorte ringardisait les politiques traditionnelles, et il y avait besoin d'un peu d'air frais, effectivement, à ce moment-là.
Bon. D'ailleurs, aujourd'hui, on le dit encore, on est en avance son âge, 34 ans, il y a des réactions de gens qui disent « bon, c'est un jeune, il faut place aux jeunes », ils disent ça aussi.
Alors aujourd'hui, que se passe-t-il ? Le président de la République, lui, n'est pas très haut dans les sondages, c'est plus ce que c'était. Celui qui était le mieux placé, qui avait la meilleure notoriété auprès des Français, c'était effectivement ces derniers mois, Gabriel Attal, en l'état actuel des choses. Il y a quelques mois, lorsqu'Édouard Philippe est parti, évidemment, on a constaté qu'il avait toujours un indice de popularité élevé alors qu'il était redevenu maire du Havre, mais que dans la perspective des futurs ou d'une future présidentielle, il était le seul favori à l'époque. Comme quoi, d'un mois à l'autre, d'une période à l'autre, les choses peuvent changer. Aujourd'hui, dans les présidentiables possibles, on reparle du nouveau Premier ministre qui a une meilleure notoriété auprès de la population française, par exemple, qu'Édouard Philippe. Alors, c'est dans l'air. C'est pas le moment d'en parler parce que l'élection présidentielle, c'est pas maintenant. C'est dans plus de 3 ans. Donc,
mais
il peut le passer des tas de choses.
Ce que les Français attendent, et vous l'avez dit plusieurs fois sur notre antenne depuis 48 heures, Fernand, c'est que les Français veulent des réponses aux questions qui les préoccupent. Et vous avez surpris dans l'actualité 2 démarches de Gabriel Attal qui vont dans ce sens de rencontre des Français, en tout cas de leurs problèmes, de leurs questions. À la fois dans le Pas-de-Calais, on peut le dire, et puis peut-être sur les questions de sécurité.
Oui, alors la première chose que j'ai observée, c'est que la valse hésitation en 24 heures, on garde ou on garde pas Élisabeth Borne, finalement, on l'annonce comme partante sur le terrain dans leur Pas-de-Calais. Au bout de quelques heures, non, finalement, elle est démissionnée, ça n'est plus elle, et c'est Gabriel Attal. Moi, ce que j'ai pensé tout de suite, c'est que le nouveau Premier ministre, il avait intérêt immédiatement, non pas à faire de la politique politicienne et à interroger Pierre-Paul Jacques pour savoir qui allait entrer dans le gouvernement ou pas, mais lui en tant que Premier ministre, puisque l'ancienne Premier ministre était partie, elle avait annoncé sa venue dans le Nord-Pas-de-Calais auprès des gens qui souffrent, qui ont tout perdu une fois, deux fois, la lutte contre le changement climatique, les inondations, comment y faire face, il fallait qu'il aille sur le terrain. Ça a été fait très rapidement, il l'a compris. Aujourd'hui, 2e étape, il continue, il fait comme Emmanuel Macron en son temps. Il va sur le terrain et il va multiplier les actions sur le terrain. Aujourd'hui, il était dans un commissariat de police, dans une commune qui a connu de nombreuses difficultés, non seulement pour la lutte contre la drogue, les émeutes, etc. Il a rencontré des policiers qui, 24 heures sur 24, sont sur le terrain. Certes, il était flanqué à ses côtés de M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur sortant, renommé ministre de l'Intérieur, qui lui a tenu compagnie et qui s'est mis en retrait parce que c'est le Premier ministre qui est en avance, qui est devant le ministre de l'Intérieur, même si le ministre de l'Intérieur a un bilan que tout le monde peut plus ou moins apprécier. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a entendu le nouveau Premier ministre Gabriel Attal? Il a entendu les policiers qui lui ont fait part de leurs difficultés, bien sûr. La difficulté d'être sur le terrain 24 heures sur 24 face à des dealers qui jour et nuit se relaient lorsqu'ils nettoient un quartier, entre guillemets. Ils savent que le lendemain, dans un autre endroit, il y aura les mêmes dealers et que ça recommencera. Donc, voyez, rien que là-dessus. La deuxième chose, c'est les incivilités, je dis le mot incivilité entre guillemets, qui se multiplient, pas seulement dans ce commissariat de police, dans la région parisienne, mais un peu partout en France. C'est-à-dire que Gérald Darmanin a bien expliqué que cette affaire avait été prise en main par son ministère depuis des mois et des mois, et que, je ne sais plus, 15 ou 20 000 postes de policiers avaient été créés, qu'il n'y en a encore pas suffisamment, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, ces hommes et ces femmes qui sont dans les commissariats de police, que ce soit police municipale, police nationale, etc., police judiciaire, sont obligés d'être sur le qui-vive 24 heures sur 24. Ça existe des moyens. Le nouveau Premier ministre a entendu. Il leur a dit aux policiers qu'il était auprès d'eux et qu'il continuerait cette action-là, comme il a promis aux sinistrés du Pas-de-Calais de ne pas les abandonner et d'être sans arrêt à leur côté.
Alors il y a un maître mot quand même, Fernand Tavares, qui est revenu à la fois chez le président de la République et aussi un peu chez Gabriel Attal, c'est le mot de réarmement.
Voilà.
Réarmer un certain nombre de dossiers et de secteurs. Parce qu'il n'y a pas que le secteur, il n'y a pas que le pouvoir d'achat, mais il n'y a pas que la sécurité, mais il y en a beaucoup d'autres aussi.
Alors le mot réarmer, il peut se décliner de 36 façons. Hein. Lorsque en français on dit le réarmement, qu'est-ce que c'est? On pense tout de suite aux chars, aux fusils, c'est pas ça. Là, enfin, ça n'est pas que cela. Réarmer, ça veut dire réarmer le futur gouvernement, lui donner des possibilités de faire plus, de lui donner les moyens financiers de faire plus, réarmer aussi les départements, les communes, les régions qui appellent sans arrêt le pouvoir central au secours en disant
il nous faut davantage prendre en compte, il vous faut davantage prendre en compte les difficultés. On parlait de sécurité. Ben oui, le premier dossier, c'est ça. On voit que dans toutes les villes, si on veut assurer la sécurité dans les quartiers, il faut mettre des moyens en hommes. Donc les moyens, ce sont les policiers. Réarmer aussi, ça veut dire quoi? Réarmer les ministères, leur donner davantage de moyens. Réarmer le trésor public, qui a à faire face à des populations qui sont de plus en plus démunies. Tout le monde ne sait pas servir d'Internet, par exemple. Vous voyez ? Donc donner les moyens aux uns et aux autres de faire face aux difficultés. Réarmer les municipalités, qui souvent ont à faire face... Les municipalités, on parlait, ce sont des petits ministères locaux qui ont besoin aussi de moyens, donc il faut des fonctionnaires, il faut voilà,
un peu voir. Et réarmer aussi, ça va peut-être pas ensemble, mais réarmer l'école, parce que Gabriel Attal a dit qu'il n'abandonnerait pas lui qui vient de quitter l'éducation nationale au bout de 5 mois, qu'il n'allait pas laisser ce dossier, même s'il y aura un ministre de l'éducation.
Oui, mais il l'a dit clairement. J'ai commencé quelque chose dans l'éducation nationale, j'ai lancé des actions. Je les mènerai jusqu'au bout. Ça veut dire que le futur ministre de l'Éducation aura à ses côtés un Premier ministre, ancien ministre de la Culture, ancien ministre de l'Éducation nationale.
Alors donc le choix du ministre de l'Éducation est important parce qu'il faudrait pas qu'il aille, qu'il pourra pas aller dans l'autre sens. Enfin, il faut espérer que Monsieur Attal qui veille au grain.
Alors l'heure est aujourd'hui à la composition du gouvernement. Bon, on ne sait pas grand-chose, ce qu'on sait simplement, a priori, c'est que le ministre de l'Intérieur a obtenu du président de la République le fait de pouvoir rester ministre de l'Intérieur. On rappelle que l'article 8 de la Constitution dit ceci, c'est le Premier ministre qui propose au président de la République un certain nombre de noms, et c'est le président de la République qui dit « oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon ». In fine, c'est le président de la République qui nomme. En gros, les ministres, voilà, sur proposition du Premier ministre. Donc on en est là. Est-ce que ça sera un gouvernement traditionnel? D'après ce qui se dit, mais je me méfie parce que c'est ce qu'il dit toujours. Aujourd'hui, on constate qu'il y a trop de ministres. Le gouvernement est pléthorique. Donc ce que voudrait le président de la République, c'est un gouvernement ramassé, moins de ministres, mais plus efficace. On l'a déjà entendu.
On le dit à chaque fois.
À chaque fois. Donc on verra bien.
Alors, autre question. Parmi ces nouveaux ministres, puisqu'il nous reste 4 minutes, oui. Fernand, est-ce qu'il pourrait y avoir des hommes politiques de notre région? On cite toujours plusieurs noms. Bien entendu, nous n'en savons rien. D'ailleurs, personne, je crois, sauf peut-être les intéressés eux-mêmes qui vont en être avertis. Mais il y a évidemment, dans les Ardennes, Boris Ravignon, qui a toutes les qualités, et puis surtout qui a eu des responsabilités nationales.
Et qui a l'oreille d'Emmanuel Macron, puisqu'il a dû faire un choix il y a quelques mois. Vous savez qu'il avait préféré rester maire de Charleville-Mézières plutôt que de prendre un autre poste, parce qu'on ne pouvait pas cumuler. Bon.
Donc, il y a évidemment Catherine Vautrin, mais qui avait été quand même un peu, entre guillemets, échaudée, même si ce n'était pas de sa faute, évidemment, lors de la nomination de Premier ministre. Elle n'est pas passée loin. Une heure avant, elle y était encore, comme on dit. Et puis, il y a Arnaud Robinet. Arnaud Robinet qui préside la fédération hospitalière. Dans le domaine de la santé, il y a un trou. Il n'y a pas de ministre de la santé. Il a démissionné. Il y a une remplaçante, mais qui est en berlificotée dans plusieurs affaires. Là, il y a peut-être, dans notre région, une fenêtre qui s'ouvre.
Alors, figurez-vous que, bon, ça n'a peut-être pas de relation de cause à effet, mais j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Savez-vous qui est responsable de la Fondation des hôpitaux de France?
Eh bien non, je ne sais pas.
Eh bien, on a parlé des pièges jaunes, du lancement de l'opération pièges jaunes aujourd'hui. Eh bien, c'est la présidente de la République, entre guillemets, c'est Madame Macron.
Mais vous dites
Brigitte Macron. Voilà, oui, c'est la présidente,
entre guillemets. Est-ce que vous ne sous-entendez pas,
non, mais j'ai pensé que,
il peut y avoir
une relation de cause à effet.
C'est-à-dire qu'ils se connaissent forcément.
Oui.
Il est président de la fédération hospitalière. L'épouse du président distribue les pièces jaunes. Alors vous dites, c'est peut-être un signe.
Entre la fondation des hôpitaux de France et la fédération hospitalière de France, il peut y avoir, une certaine connivence, une certaine entente.
On aura la réponse.
Bon, ça, on ne lit pas dans le marc de café, mais tout est possible. Et on sait qu'Arnaud Robinet est partant pour un changement. Reste à savoir après ce que deviendra la mairie de Reims à la tête de la ville de Reims. C'est une autre question.
Alors, il nous reste vraiment très peu de temps. Vous allez revenir au cours des prochaines journées.
On peut dire que la prochaine étape, ça va être la déclaration de politique générale.
Voilà, à l'Assemblée nationale.
Ah oui. La semaine prochaine, donc, le gouvernement sera composé, etc.
Discours important.
Quand
le Premier ministre arrive, il va à l'Assemblée. Et là, il peut marquer, là.
Ah bah oui, parce qu'il donnera non seulement sa feuille de route, il dira aux uns et aux autres, voilà ce que je veux faire dans tel, tel et tel domaine, ça dure un certain temps. Alors le problème maintenant, c'est de savoir si, à l'issue de ce discours, comme le demande l'opposition et en particulier la France insoumise, est-ce que Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, va engager sa responsabilité ou demandera un vote de confiance? Il n'a pas intérêt à le faire, ça n'est pas obligatoire,
pas
parce que pour l'instant, il n'a qu'une majorité relative et il n'a aucune raison de prendre ce risque.
Merci en tout cas Fernand Tavares d'avoir été avec nous. Vous étiez avec nous ce matin en direct, vous nous avez éclairé, ce soir également dans notre émission régionale. Et puis nul doute qu'il va y avoir des annonces dans les heures, dans les jours qui viennent. On reparlera de Reims, peut-être on a évoqué Arnaud Robinet et d'autres, mais ce sera l'occasion bien sûr, Fernand, d'en reparler.
Ce qu'on a quand même observé, c'est qu'il y a une osmose complète entre le président de la République et son nouveau Premier ministre. Ils se voient matin, midi et soir.
Vous l'aviez rappelé tout à l'heure, mais je crois que c'est bon de le rappeler. C'est-à-dire que, bon, maintenant, il y a une autre page qui s'ouvre. Et bien sûr, nous aurons l'occasion d'ouvrir les pages de ce livre dans les prochaines semaines. En attendant, c'est l'heure de nous retrouver pour d'autres rubriques dans un instant.
Le 18-19 sur RCF.
Avec nous par téléphone, on reçoit Aubin Janteur, directeur des magasins Janteur à Charleville-Mézières et Châlons-en-Champagne, également vice-président de la CCI Marne-Ardenne. Aubin Janteur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En cette nouvelle année, on vous présente nos meilleurs vœux et on vous souhaite une très belle et bonne année 2024, Aubin Janteur.
Eh bien écoutez, merci beaucoup et à vous tous également, avec une bonne santé naturellement et puis plein de réussite dans tout ce que chacun entreprend.
On reçoit tous vos vœux au nom des auditeurs de RCF. Aubin Janteur, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que les soldes d'hiver vont être lancés, Aubin Janteur. Comment ça se présente cette édition 2024, les soldes d'hiver?
Alors ça se présente à la fois, je dirais, comme les autres éditions, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas du métier, c'est difficile à percevoir, mais on enchaîne le Black Friday, les fêtes de Noël. Donc une période intense, y compris pour les équipes en termes physiques, en termes d'engagement, et directement après, les ventes privées et maintenant les soldes. Ça, c'est le côté récurrent qui est physiquement éprouvant, dans le temps, en fait, pour toutes nos équipes. Après, spécifiquement, il y a les soldes, on les aborde en fonction de ce qu'on a bien vendu, moins bien vendu, de la météo qu'il a faite ou qu'il n'a pas faite.
Eh bien justement, Aubin Janteur, puisque vous voulez parler de la météo, on reviendra peut-être juste après sur l'ensemble des offres qui sont proposées par les commerçants, mais c'est vrai qu'on est entré sur plusieurs jours de froid après avoir une météo pluvieuse. Comment ça se passe au niveau des stocks?
Les stocks sont naturellement, et ça on comprend bien, le reflet aussi du temps qu'il a fait. On a eu une entrée de saison, il faut savoir que pour nous, l'hiver commercial, il va démarrer dès après les soldes d'été. C'est-à-dire que concrètement, les soldes d'été se terminent fin du mois de juillet. Donc progressivement, on remplit nos rayons des produits d'automne et d'hiver dès le mois d'août. Alors ça peut paraître parfois un peu bizarre parce que c'est aussi assez régulièrement le moment où il fait le plus chaud. La saison, elle a été marquée par quoi? Par un début d'automne extrêmement chaud dans nos régions. Et là, je parle en règle générale. On a le mois de septembre est souvent un mois durant lequel il fait beau, mais avec des matinées fraîches, des choses comme ça, ce qu'on n'a pas du tout eu, puisqu'on a eu un temps plutôt estival, en fait, qui a duré jusqu'au début du mois d'octobre, ce qui est assez pénalisant pour nous. Et on a eu une toute petite vague de froid au mois de novembre, et sinon, globalement, je pense que chacun l'aura remarqué, on a eu une météo essentiellement douce et pluvieuse jusqu'à la semaine dernière. Donc, on n'a pas beaucoup vendu les manteaux, parce qu'on n'en avait pas besoin. On n'a pas beaucoup vendu de bonnets, de gants, d'écharpes, etc., bah, tout simplement parce qu'il n'a pas encore fait froid.
Ça veut dire que concrètement, pour les clients, pour prendre l'exemple de vos magasins Janteur à Charleville-Mézières et Châlons, Aubin Janteur, dans les démarques, on va retrouver notamment ces produits-là, des écharpes, des bonnets, des gants, des manteaux?
Oui, alors pour ce qui est par exemple des écharpes et des gants, je vous avoue que si on prend des gants gris, bleus, marines, etc., bon, qui sont des produits qu'on va considérer comme un peu récurrents, on va essayer de les garder aussi un petit peu parce que pour nous, il est inutile d'aller fracasser commercialement des produits qui ont une longue durée de vie. Mais vous avez raison, pour les manteaux, enfin pour tous les produits qui ont un petit peu un côté modé, c'est-à-dire qui sont liés à une saison ou à une année, oui, les remises seront probablement plus intéressantes qu'à d'autres périodes ou au moins les stocks plus élevés.
Et en termes de fréquentation par rapport aux visiteurs et aux clients potentiels, comment vous espérez cette saison, Aubin Janteur?
Ça, c'est une bonne question et c'est une vraie interrogation. La réponse, pour moi, n'est pas linéaire, puisque j'observe des variations de fréquentation assez différentes selon nos magasins, nos comportements. Sans surprise, à Charleville, où on est implanté en centre-ville, la météo très défavorable du mois de décembre a été plutôt pénalisante, alors qu'à Châlons, où on est implanté en zone, la météo en elle-même est relativement peu impactante. Donc là, la fréquentation, je l'imagine plutôt bonne, et là, de tout fond du bois, dans les 10 jours qui viennent, qui sont 10 jours absolument essentiels pour nous, en termes d'activité, aussi en termes de trésorerie, parce que l'objectif des soldes, c'est à un moment donné, c'est plus de vendre en faisant de la marge. On a besoin de la marge pour payer nos charges, l'électricité, etc. Mais la difficulté pour les commerçants, c'est quand on ne vend pas, en fait, l'argent est bloqué dans les stocks. Donc les soldes ont vraiment pour vocation aussi à donner un petit peu d'air en termes de trésorerie à nos entreprises qui en ont besoin, parce que cette trésorerie-là, elle va permettre de racheter les stocks de la saison printemps-été.
Vous êtes plutôt optimiste, Aubin Janteur, et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que vous le disiez même au début de cet entretien, on pourrait se demander s'il n'y a pas une lassitude côté consommateur avec les différentes offres qui arrivent, notamment avec le moment du Black Friday. Normalement, c'est juste une journée. Maintenant, on a plus l'impression que c'est tout au long du mois de novembre. Ensuite, on a les périodes de fêtes de Noël avec de belles remises également, les ventes privées qui arrivent avant les soldes. Et puis là, tout de suite, début janvier, on entame les soldes. Donc on pourrait se dire il y a peut-être une lassitude du côté des consommateurs.
Je pense que ça interroge un petit peu le consommateur à juste titre sur la fréquence des promos et sur l'opportunité d'acheter sans remise. Et ça, c'est une vraie question de fond. Vous avez raison. Après, il y a quand même quelque chose qu'on constate d'année en année, c'est que cette question-là, elle se pose. Le Black Friday, qui était un événement qui n'existait pas il y a quelques années, s'est vraiment imposé dans le paysage commercial comme un événement vraiment fort. Donc, c'est à nous aussi de bien le gérer parce que c'est un événement qui dégrade les marges. Et les soldes, effectivement, sont quand même un événement un petit peu moins fort qu'il ne l'était dans le passé. Néanmoins, on voit que les soldes ont été raccourcis par l'État. Ils sont passés de 6 semaines à 4 semaines. Et quand on fait le compte à la fin, on constate vraiment que les 2 dernières semaines qui nous manquent, elles nous manquent. C'est-à-dire que même si l'effet est moins important, le mot solde reste quand même un mot un petit peu magique.
Est-ce que ça veut dire que, concrètement, finalement, pour les commerçants, les soldes aujourd'hui, elles sont encore utiles, elles ont encore un intérêt?
Ah oui, oui, oui. Pour moi, la réponse est sans détour. Les soldes ont un intérêt. Ce que vous souleviez, en fait, c'est plus peut-être l'encadrement ou la façon dont on doit gérer les promotions, en fait, tout au long de l'année. Mais ça, c'est de l'ordre de la stratégie commerciale. Les soldes en eux-mêmes sont absolument indispensables. Et à titre personnel, je pense qu'il est bon de les garder tous ensemble, c'est-à-dire synchroniser entre les magasins et que ce soit un événement qui est un petit peu régi par un calendrier officiel.
Et pour les consommateurs, est-ce que l'on fait réellement de bonnes affaires encore pendant les soldes par rapport au prix de référence habituel?
Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un produit très demandé, sur lequel on a nous-mêmes des difficultés d'approvisionnement, évidemment, il aura moins de remise qu'un produit qu'on a eu des difficultés à vendre. Et ça, je pense que chacun le comprendra. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le dernier produit à la mode soit le produit le plus remisé. En revanche, il y a des produits qui sont fortement remisés et qui, tous, en fait, sont des bons produits en tant que tels, mais pour des raisons X ou Y, qui vont plus ou moins plus. L'idée des soldes, elle est quand même bien là. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'écouler les stocks pour éviter d'en avoir trop après, très bien vendu.
La tendance que vous nous décrivez au Bajanteur, elle est valable pour les magasins Janteur à Charleville-Mézières, à Châlons-en-Champagne, mais également, on imagine, pour l'ensemble des magasins de vêtements qui sont dans ces villes de Charleville, de Châlons, et puis à travers le territoire de la Marne et des Ardennes.
Oui, je le pense, effectivement, mais même au-delà des Ardennes ou de Châlons. C'est-à-dire qu'après, il peut y avoir des spécificités locales qui sont liées à des événements. Enfin, on parlait de la météo, c'est sûr que des facteurs météo locaux peuvent avoir un impact dans un sens ou dans un autre, mais globalement, les tendances restent nationalement les mêmes. À chacun de s'armer et d'être le plus efficace possible pour que ça marche bien.
Eh bien, on vous souhaite une belle période de solde, Aubin Janteur, et puis on aura l'occasion de se retrouver tout au long de cette période, ou peut-être au moins en fin de période, pour faire le bilan, de voir si ça a bien fonctionné. En tout cas, vous êtes plutôt optimiste, et c'est tout ce que l'on vous souhaite de réussir cette belle période. À très bientôt, Aubin Janteur.
Très bien, merci beaucoup, à très bientôt.
18h58 sur les ondes de RCF en région Jean-Pierre.
Et oui, alors c'est l'occasion bien sûr de saluer Fernand qui nous a accompagnés, Fernand Tavares. Parmi les rendez-vous, il y a bien sûr c'est la constitution des noms du gouvernement dans le ministre, il y a l'Assemblée nationale, mais aussi le rendez-vous du Conseil constitutionnel.
Le rendez-vous du Conseil constitutionnel, c'est important, c'est le 25 janvier. On saura ou non si la loi sur l'immigration qui a été votée, difficilement, mais votée quand même une certaine majorité à l'Assemblée, ressortira à 100% la même. J'en doute, car on annonce déjà, sous le manteau, qu'un certain nombre d'articles seraient inconstitutionnels et qu'ils s'apprêtent à être censurés. Alors,
là,
comment ça sera
perçu?
Il y aura obligatoirement des réactions et à nouveau une campagne orchestrée pour demander un référendum sur les questions.
Eh bien voilà, on aura l'occasion d'en reparler.
Oh oui.
Merci en tout cas, Fernand. Et vous voyez, Alexis, on peut énoncer un certain nombre de rendez-vous. Nous, localement, nous aurons Mario Rossi avec nous demain matin. Et puis
peut-être demain soir, d'ailleurs, dans le magazine régional.
Peut-être demain soir dans le magazine régional. Monseigneur Véteux sera avec nous vendredi matin.
Et vendredi soir dans le magazine régional
également.
Et
puis on est dans l'attente avec Fernand, avec vous-même, Alexis.
Voir c'est vrai qu'on aimerait bien savoir ce qui va se passer quand même.
Il y a par exemple un élu de notre région qui deviendrait ministre.
Mais vous savez, il y a un petit marché près de chez moi le jeudi matin. J'habite à Reims, près de la place Tuton. Peut-être que je vais aller acheter une boule de cristal pour voir un peu ce qui va se passer, Jean-Pierre.
Ben oui, puis remuer tout ça, puis voir ceux qui sortent. Et puis... on regardera un petit peu.
À chaque changement de gouvernement, s'il fallait sonder les âmes des uns ou des autres, on aurait quelques indices.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Alexis, merci Fernand, merci Fabrice qui est en régie. On vous donne rendez-vous demain pour ouvrir de nouvelles pages du 18-19 en Champagne-Ardenne.